Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Eh bien, je vais vous parler cette année de culture générale. Je m'inspirerai de mon livre paru chez Ellipse à Paris et qui s'intitule « Comprendre la culture générale » et dont une version électronique est en préparation et sortira bientôt. Alors, s'agissant de la culture générale, eh bien Pascal, le grand philosophe du XVIIe siècle, a dit une chose très intéressante. « Il est bien plus beau, nous dit-il, de savoir quelque chose de tout que de savoir tout d'une chose. » Donc la culture générale est une nécessité à la fois face à l'ignorance et face à la spécialisation. Encore faut-il éviter le catalogue et la juxtaposition de simples faits. Encore faut-il proposer des modèles d'intelligibilité de ce que l'on décrit. Pirandello disait très bien à cet égard, « Les faits sont comme des sacs, quand ils sont vides, ils ne tiennent pas debout. » De la sorte, ces émissions, différentes de livres par exemple, qui se contentent de recenser des faits, vont construire et dresser ces modèles d'intelligibilité en proposant une démarche et une exploration des choses que je baserai essentiellement sur la psychologie. Donc si vous voulez, d'un côté vous avez Wikipédia qui vous donne les faits, voilà, sans commentaire. Eh bien, personnellement, dans mon ouvrage et dans cette série d'émissions, je m'appliquerai à commenter ces faits. Bien sûr, je n'engagerai que moi dans mon commentaire, mais je voudrais que s'instaure entre vous, les auditeurs, et moi-même, un dialogue. Donc, pourquoi est-ce que je parle de psychologie ? Eh bien, je pense qu'on pourrait appliquer à la culture le mot que Léonard de Vinci appliquait à la peinture. La culture est une chose mentale, cosa mentale, vous voyez. Alors, cette culture générale devrait être compréhensible au plus grand nombre. Et les schémas d'interprétation que je proposerai se veulent accessibles à tous. Paul Valéry, un grand penseur, souvent vertigineux et abyssal, disait « Il n'y a pas de choses simples, mais il y a une façon simple de voir les choses. » Il faut écouter Paul Valéry dans ses cahiers, par exemple. Voici ce qu'il dit. Par ailleurs, ce qui est simple est faux, ce qui n'est pas simple est inutilisable. Donc après, il faut se débrouiller avec cela. Et il dit aussi, ailleurs, que l'esprit clair fait comprendre ce qu'il ne comprend pas. Et là, je pense aux mots de Jean Cocteau. Puisque ces choses nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs, vous voyez. Donc tout ceci est pour plaisanter, et finalement, il faut le prendre avec humour, mais je vais essayer d'expliquer ces choses qui sont très très complexes d'une façon simple, la plus simple possible. Je commencerai par dresser des définitions. Et là, je mettrai ma réflexion sous le patronage d'une nouvelle citation de Paul Valéry, un épigraphe de ce chapitre, chapitre définition. Valéry nous dit « Que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas ?» Alors là, j'imagine que votre curiosité, auditeur, est piquée, puisque vous y voyez là vraiment quelque chose d'énigmatique. Ce qui n'existe pas, comment pourrait-il se faire que cela nous aide? Eh bien, nous allons essayer d'y voir clair. D'abord, quelles sont les différences entre nature et culture? Alors, je dirais que la culture, c'est ce qui, en l'homme, s'oppose à la nature. Cela est sûrement vrai pour la vie de chaque homme, prise en particulier, mais cela est vrai aussi de la vie en société. La culture, c'est ce qui s'oppose, en chaque groupe, à la vie de la nature, à la vie selon les lois naturelles. Alors, de quelle sorte sont ces lois? que veut la nature en vérité, et je mets veut entre guillemets. Alors, je dirais que dans la vie personnelle de l'individu, la nature le pousse à assouvir immédiatement ses instincts, à réaliser ses pulsions, bref, à faire tout de suite tout ce dont il a envie. Et la culture, en opposition, se dresse peut-être moins contre les instincts, car il y a des cultures qui font l'éloge des instincts, mais disciplinées, domestiquées, hein, peut-être moins contre les instincts que contre l'adhésion immédiate ou par réflexe aux instincts. Alors, que sont ces fameuses lois de la nature ? Je dirais que la nature n'est jamais répressive. La nature ignore l'exclusivité et le choix. Et cela se voit dans les œuvres, je dirais, marginales, qui sont anomiques au sens de Durkheim, c'est-à-dire qu'ils ne suivent pas la loi, nomos, hein. Dans ces œuvres-là, la nature, par défi contre la culture environnante, va se trouver réhabilitée, et parfois avec impertinence. Et on voit bien cela dans les liaisons dangereuses de Laclos. Alors, je vais vous citer cette lettre, qui est un modèle de lettre de rupture, qui peut servir d'ailleurs à ceux qui veulent rompre. Hein. Il faut effectivement que l'héritage culturel soit utile, c'est ce que l'on nous dit maintenant. Hein. Voici la lettre en question. « On s'ennuie de tout, mon ange, c'est une loi de la nature. Ce n'est pas ma faute. Si donc je m'ennuie aujourd'hui d'une aventure qui m'a occupé entièrement depuis 4 mortels mois, ce n'est pas ma faute. Si par exemple j'ai eu juste autant d'amour que toi de vertu, et c'est sûrement beaucoup dire, il n'est pas étonnant que l'un ait fini en même temps que l'autre. Ce n'est pas ma faute. Il suit de là que depuis quelque temps je t'ai trompé, mais aussi ton impitoyable tendresse m'y forçait en quelque sorte. Ce n'est pas ma faute. Aujourd'hui, une femme que j'aime éperdument exige que je te sacrifie. Ce n'est pas ma faute. Je sens bien que te voilà une belle occasion de crier au parjure. Mais si la nature n'a accordé aux hommes que la constance, tandis qu'elle donnait aux femmes l'obstination, ce n'est pas ma faute. Crois-moi, choisis un autre amant, comme j'ai fait une autre maîtresse. Ce conseil est bon, très bon. Si tu le trouves mauvais, ce n'est pas ma faute. Adieu, mon ange, je t'ai prise avec plaisir. Je te quitte sans regret. Je te reviendrai peut-être. Ainsi va le monde. Ce n'est pas ma faute. C'est la lettre 141. Des liaisons dangereuses. Elle est envoyée par Valmont à la présidente de Tourvel sur injonction, justement, de la marquise de Merteuil. La marquise de Merteuil lui propose cette lettre parce qu'elle est jalouse, justement, de l'amour éprouvé par Valmont vis-à-vis de la présidente. Eh bien, c'est un piège que la marquise de Merteuil fait à Valmont. Est-ce qu'il aura la bêtise, la sottise d'envoyer précisément cette lettre. Et Valmont tombe dans le panneau, puisque, par souci de sa réputation de séducteur, de roué, hein, il ne veut pas déchoir aux yeux du monde, il a la sottise d'envoyer cette lettre, qui va précipiter la présidente de Tourvel dans le désespoir. Alors, que dit Valmont ? C'est une loi de la nature. Eh bien, on ne saurait mieux dire, hein. Dans la vie amoureuse, la nature est complètement amorale. Elle ignore la monogamie, la fixation unique, l'élection, en quelque sens que ce soit. Monogamie, pour la nature, c'est monotomie, en quelque sorte. Et j'imagine dans quel état doit être la présidente de Tourvel quand elle reçoit cette lettre. Elle doit être abattue, elle n'a rien à dire. Il n'y a rien à répondre à la lettre de Valmont. Elle est un modèle, cette lettre, de cynisme, de muflerie et dans son ordre de vérité. Alors, la nature, voilà, la nature. Est-ce que Valmont est le premier à l'avoir invoqué ? Non, hein. Déjà, Don Juan chez Molière disait la même chose. Voyez sa profession de foi au début de la pièce de Molière. Quoi, tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend, qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'ait plus Dieu pour personne? La belle chose que de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non, non, la constance n'est bonne que pour les ridicules. Toutes les belles ont droit de nous charmer, et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve, et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes, et je rends à chacune les hommages et les tributs où la nature, oui, la nature, où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable. Et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables, et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire, par cent hommages, le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait, à combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes, à forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose, à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur, et la mener doucement où nous avons envie de la faire venir. Mais lorsqu'on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire, ni rien à souhaiter. Tout le beau de la passion est fini, et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour, si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs et présenter à nos cœurs les charmes attrayants d'une conquête à faire. Enfin, il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne, et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants qui volent perpétuellement de victoire en victoire, et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs, je me sens un cœur à aimer toute la terre, et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes, pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. » C'est Don Juan de Molière, acte 1, scène 2. C'est ce que dit Don Juan à Scannarelle. Alors, Don Juan, vous le voyez, est moins un séducteur qu'un homme perpétuellement séduit et perpétuellement lassé, hein. Toute son activité est au service d'une passivité foncière. D'ailleurs, il parle de passion, hein. Et quand il dit où la nature nous oblige, on voit bien là aussi que pour Don Juan, il ne s'agit comme que pour Valmont que de régresser à la simple nature. C'est une loi de la nature, vous voyez. Eh bien, toutes ces œuvres-là, dont je viens de citer deux exemples, détruisent toute une culture en faisant appel justement à cette nature omnipotente. Chamfort disait au XVIIIe siècle que l'amour n'est que l'échange de deux fantaisies et le contact de deux épidermes. Et c'est un fait que la nature tyrannise nos corps, elle nous ôte notre liberté. Quand les libertins du XVIIIe siècle pressaient leurs belles de leurs assiduités, ils disaient « Madame, madame, la nature a parlé ». Vous voyez, la nature a parlé. Alors vous voyez, la loi de la nature, c'est ça. On s'éprend d'abord, on se méprend, et enfin on se reprend. Et d'abord on s'enlace, hein, du verbe enlacer, et puis on s'enlace du verbe se lasser, vous voyez. Hein. Et tout cela est hors de notre pouvoir. Lorsque la passion nous quitte, nous nous flattons de la croyance que c'est nous qui la quittons. Et les constatations du moraliste, Chamfort, rejoignent ici les remarques du psychologue, en l'occurrence Proust, hein, sur les fameuses intermittences du cœur. Tel est l'ordre de la nature, au double sens du mot ordre. Ordre veut dire constitution, la façon dont la nature est faite, et injonction, c'est-à-dire l'impératif. Elle nous commande à faire ceci. Hein. Et La Rochefoucauld nous dit aussi que, comme il n'est jamais en notre pouvoir d'aimer ou de cesser d'aimer, l'amant ne peut se plaindre à bon droit de la légèreté de sa maîtresse, ni celle-ci de l'inconstance de son amant. Alors tout au plus, peut-on exiger des autres, sinon une fidélité qui ne dépend pas d'eux, exiger la lucidité sur eux-mêmes et au moins la sincérité, l'aveu de leurs sentiments. Mais la nature est tragique parce que l'effort que l'on fait, cet effort même que l'on fait pour demeurer fidèle à quelqu'un que l'on n'aime plus, est pire qu'une infidélité. Voyez par exemple, pour illustrer cela, Adolphe de Benjamin Constant. Il y a donc, je dirais, une abstraction de la nature, au sens où, par exemple, Proust peut qualifier les femmes, je cite, « d'instruments interchangeables, d'un plaisir toujours identique ». Vous voyez ? Fin de citation. Et Proust nous dit aussi, hein, par ailleurs, « on n'aime jamais personne quand on aime ». Puisque dans ce processus, précisément, ni l'autre, ni au fond aussi nous-mêmes n'existent. Hein. Un amour, je dirais, on ne compte pas, hein, en jouant sur l'expression « on ne compte pas hein. ». Puisque l'on est prisonnier des lois biologiques ou physiologiques qui sont la part naturelle de notre destin. Je pense que c'est dans cet ordre de la nature, c'est qu'il y a quelque chose en nous de plus grand que nous qui se manifeste. C'est ce que le dit Phèdre chez Racine. C'est Vénus tout entière à sa proie attachée. Acte 1, scène 3, vous voyez. Hein. Vénus, c'est la libido freudienne, c'est la pulsion sexuelle. Nous ne sommes rien, nous ne comptons pour rien là-dedans. Hein. Alors, cette chose plus grande que nous, elle est totalement anonyme. Par exemple, nous pensons dans l'amour choisir notre partenaire librement, mais c'est une illusion. Nous croyons poursuivre des fins individuelles, des buts personnels, mais nous ne poursuivons que des fins génériques. Et Schopenhauer le montre dans un livre essentiel qui s'appelle « Métaphysique de l'amour ». Le philosophe allemand nous dit que la nature se sert de nous comme de pantins ou de marionnettes ou d'esclaves pour, à travers nous, perpétuer l'espèce. Ce n'est pas de nous qu'il est question, mais de la continuation de la vie, non pas du corps individuel ou du soma, hein, le corps en grec qui est périssable, mais de la semence de la vie qui est immortelle, le germen en latin, hein. Nous aimons pour toute autre chose que nous-mêmes. L'être qui vit transmet la vie et puis meurt. Hein. Les vagues passent, mais la mer ne passe pas. En effet, l'enjeu ici nous dépasse. Le jeu est grandiose et ridicule à la fois. Le vouloir vivre générique l'emporte sur tous nos projets et la comédie nous asservit. Et comme des coureurs, les hommes se passent le flambeau de la vie. Je viens de citer Lucrèce, un grand sage antique, un disciple d'Épicure. Il dit « Et quasi cursores uitae lampada tradunt ». C'est dans le De Rerum Natura, au chant 2, au vers 79. Et Lucrèce a encore bien raison quand il évoque Vénus dans les forêts unissant le corps des amants. Je le dis en latin, puisque je suis un professeur de lettres honoraire, hein, et que j'aime beaucoup cette langue qui n'est pas morte hein, du tout, comme on le dit. « Et Venus in siluis jungebat corpora amantum ». C'est toujours dans le De Natura Rerum, au chant 5, au vers 961. Et c'est un fait que dans l'amour ainsi conçu, il y a toujours quelque chose de sauvage. Ce mot sauvage, d'où vient-il? Eh bien, peut-être les auditeurs le savent, ce mot vient du latin « silua », qui veut dire « forêt hein ». Et en un sens, c'est bien la forêt primitive, non domestiquée, qui est l'espace propre de la nature, « siluaticus », qui a rapport à la forêt. Hein. Notez que c'est dans la forêt du Morois que se réfugient Tristan et Iseult pour se donner l'un à l'autre. Et ainsi, ils se mettent en marge dans le récit médiéval, du monde de la culture. Vous voyez l'opposition nature-culture. Et alors, peut-être que l'impression de tristesse qui suit l'accouplement amoureux vient de là, de l'impression d'avoir été trompé, dupé par la nature. Et voilà pourquoi la chair est triste, comme on dit. Tout animal est triste après l'amour, omne animal post coitum triste. Et cette dépression, qui est plus propre à ce moment-là à l'homme qu'à la femme, en effet, il me semble que la femme chargée de transmettre la vie a davantage partie liée à la grande loi de sa reproduction, et dans le cas de l'amour, elle semble plus dopée que dupée, me semble-t-il, hein. Cette dépression justifie que, au sein même de l'amour, au sein même des fleurs, des plaisirs de l'amour, surgit quelque chose d'amer qui prend à la gorge, comme le dit encore Lucrèce, hein. Surgit amaria liquid, quod in ipsis floribus anguat, hein. C'est le De Naturarum, chant 4, verset 1133. Vous voyez? En somme, si le déterminisme de la nature a sa grandeur, il a aussi son ironie. Nous sommes manipulés. Et c'est ainsi que Valéry écrit dans Le Cimetière marin, hein, les cris aigus des filles chatouillées, les yeux, les dents, les paupières mouillées, le sein charmant qui joue avec le feu, le sang qui brille aux lèvres qui se rendent, les derniers dons, les doigts qui les défendent, tout va sous terre et rentre dans le jeu. Voilà, chers auditeurs, pour notre première émission, j'ai essayé de montrer les injonctions de la nature, les postulations de la nature. Nous n'avons pas encore parlé de culture, nous en parlerons dans la prochaine émission, la culture s'opposant à ce que je viens de dire. Si maintenant vous voulez me retrouver, n'hésitez pas à aller sur Internet et à me rejoindre sur mon blog www.michel-theron.fr. Rendez-vous à la prochaine émission.
Retrouvez Michel Theron sur son blog www.michel-theron.fr.